Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de ménage. Aujourd'hui, Othman a décidé de nous présenter dans les grandes lignes le mouvement panafricain. C'est quelque part un sujet d'actualité après l'annonce, par le ministère de l'Intérieur, du lancement d'une procédure de déchéance de nationalité à l'encontre du militant panafricain Kémi Séba. Ce que l'administration reproche à ce dernier, ce serait un comportement anti-français et une incitation à la rébellion permanente contre les autorités africaines qu'il juge trop proche des intérêts français. En un mot, l'administration française lui reproche d'être déloyale envers la France. Alors Othman, pour qu'on puisse mieux comprendre cette actualité et ses enjeux, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement le mouvement panafricain ?
Bonjour à tous et bonjour Pierre. Merci pour cette introduction qui explique pourquoi on a décidé aujourd'hui de parler du panafricanisme. Je rappelle que dans un précédent épisode, en nous basant sur la BD L'Arabe du futur de Riyad Satouf, on avait présenté le panarabisme. Il sera donc aujourd'hui question de son pendant africain. Selon Hamzat Boukhari Yabara, qui est un historien béninois spécialiste du panafricanisme, l'histoire de ce mouvement est profondément vagabonde. J'aime bien l'expression. Il parle même d'une énigme historique. Tant les dates en fait et les lieux de naissance du panafricanisme varieraient en fonction des critères qu'on va retenir pour définir ce que c'est. Quand on évoque la genèse et la nature du mouvement panafricain, il serait possible, nous dit Boukhari Yabara, de faire référence à trois temporalités et à trois sphères politiques et culturelles différentes. Donc, si on devait le définir, on pourrait dire que le panafricanisme peut être à la fois un concept philosophique né des deux côtés de l'Atlantique avec les mouvements émancipateurs et abolitionnistes de la seconde moitié du XVIIIe siècle, aussi un mouvement sociopolitique construit et développé par des Afro-Américains et des Antillais entre la fin du XIXe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais encore une doctrine de l'unité politique formulée par des nationalistes africains dans le cadre des luttes anticoloniales et indépendantistes après la Seconde Guerre mondiale. Donc le panafricanisme peut tout à fait embrasser toutes ces définitions à la fois, si on le perçoit comme l'expression sociale et politique de la volonté d'émancipation des Africains et des Afro-descendants. Petit point sémantique, dans panafricanisme, il y a pan, qui est un mot d'origine grecque, qui signifie ensemble, ce qui rassemble. Il est donc ici utilisé en référence à ce qui rassemblerait les peuples africains.
Ok, alors est-ce que tu saurais nous en dire un peu plus sur ce qui, justement, rassemblerait les peuples africains ?
Alors, attention, petite coquetterie pour commencer. Selon certains historiens, jusqu'à l'époque contemporaine, les Africains n'avaient pas vraiment conscience de l'être. Il leur était donc difficile de concevoir des choses qui les rassemblent. Il faut savoir que pendant l'Antiquité, les Grecs nommaient les régions qu'ils connaissaient au sud de la Méditerranée, Libye ou Éthiopie. Et donc, en fait, ce sont les Romains qui les premiers parlent d'Afrique. Peut-être en déformant le mot berbère Ifren, qui signifie grotte. Et pour cause, une grande confédération berbère, les Aitifren, probablement troglodytes, occupait alors un territoire qui s'étendait de la Libye au Maroc. On peut donc dire que ce sont les Romains qui ont baptisé l'Afrique. Et le continent conservera ce nom à l'avenir, et notamment après la conquête musulmane des 7e et 8e siècles après Jésus-Christ. Efrekia désignera, dans les sources arabes, les territoires de l'ancienne Afrique proconsulaire romaine, la Tripolitaine en Libye, la Tunisie et l'Algérie orientale actuelle. Il faut savoir que pendant très longtemps, le continent n'a pas été perçu comme un bloc monolithique. Il était divisé entre le Maghreb, c'est-à-dire l'Occident musulman qui regroupe l'Afrique du Nord de l'océan à l'Égypte, et Bilad Soudan, littéralement le pays des Noirs, pour la zone s'étendant à l'est et au sud. Permets-moi, cher Pierre, une toute petite digression. On retrouve bien cette distinction et cette référence à Bilad Soudan dans la musique Gnawa, cette musique qui est définie comme le blues d'Afrique du Nord, une musique envoûtante de descendants d'esclaves, faite de chants, de danses et de rituels syncrétiques, issus en fait d'anciens rituels animistes d'Afrique de l'Ouest, remaniés pour être en conformité avec l'islam. Et dans la musique gnawa, les références au Bilad Soudan sont très nombreuses, comme dans la culture gnawa en général, et c'est une sorte de rappel de l'exil maghrébin de ces populations noires-africaines. Je clôt la digression. Et pour conclure, on précisera que la première fois qu'un Africain utilise le mot « Afrique » pour englober les larges territoires aussi bien au nord qu'au sud du Sahara, c'est au XVIe siècle, quand un Andalou, né au Maroc, retenu captif à la cour du pape et converti au christianisme sous le nom de Léon l'Africain, écrit à la demande du souverain pontife et en italien une description de l'Afrique qui fera autorité en Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Ok. Alors merci pour ce tour d'horizon historique. Et dans ces conditions, comment donc est né le panafricanisme ?
Alors, reprenons, si tu veux bien, les diverses temporalités évoquées tout à l'heure.
Ok, donc d'abord, pour commencer, le panafricanisme comme prolongement des luttes pour l'émancipation des Afro-Américains.
Tout à fait. Je vois que tu suis et je te félicite. L'abolition de l'esclavage ne met pas fin au racisme, à la ségrégation et aux inégalités. Des Afro-Américains, mais aussi des Africains originaires des colonies britanniques, s'organisent à partir de la fin du 19e siècle. La première conférence panafricaine de l'histoire se tient à Londres en 1900. Et pendant cette conférence, deux grandes tendances émancipatrices se dessinent. La première va se focaliser sur la revendication de l'égalité et des droits civiques. Et la seconde, celle qui nous intéresse aujourd'hui, embrasse le projet d'un retour vers l'Afrique des Africains du monde. On a déjà un peu parlé de ce sujet dans l'épisode du podcast dédié au rastafarisme. Et l'épisode est en ligne pour ceux que le sujet intéresse. Donc, un petit rappel pour ceux qui ont loupé ce podcast. L'émancipation progressive aux Antilles et aux États-Unis des Afro-Américains, convertis au christianisme protestant depuis des siècles, va donner naissance, à partir de 1860, au Great Revival, une relecture littérale de l'Ancien Testament qui va susciter le mythe d'un retour des Afro-descendants vers l'Éthiopie, la nouvelle terre promise. C'est à ce titre que le syndicaliste jamaïcain Marcus Garvey peut être considéré comme le père du panafricanisme, lui qui, parmi les premiers, prône le retour en Afrique, mobilise la diaspora noire dans le monde entier et proclame à New York, en 1920, la Déclaration des droits des peuples noirs du monde, qui sera signée devant notaire par une centaine de citoyens dûment élus représentants du peuple noir du monde. Et le recours au singulier est ici très significatif. Le peuple noir du monde. Les signataires revendiquent en tant que noirs leur statut de citoyen libre de l'Afrique, la mère patrie de tous les nègres, je cite. Ils adoptent l'hymne éthiopien universel qui chante, je cite, « Jéhovah le Très-Haut nous a entendus, il a vu nos larmes et nos souffrances, avec son esprit d'amour, il nous invite à être un pour les années à venir, et que le ciel bénisse notre chère mère patrie. » Fin de la citation. Ils acceptent aussi de se soumettre à l'autorité du leader du peuple nègre du monde. Dans le projet de Marcus Garvey, l'Afrique est donc perçue comme un état en formation, avec un hymne national, un président, un peuple, une charte des droits. Et jamais un projet panafricain n'ira aussi loin. D'ailleurs, des Afro-Américains au 19e et 20e siècle vivront ce rêve panafricain en allant s'installer dans les colonies britanniques, notamment au Libéria et au Ghana. Et à la même époque, des étudiants originaires du continent, inscrits dans des universités européennes, rejoignent les Afro-Américains dans leur combat, auquel ils apportent une dimension anticoloniale.
Ok, et c'est donc là qu'il est question du panafricanisme comme doctrine décoloniale.
Parfaitement. La question coloniale intègre le panafricanisme dans l'entre-deux-guerres. D'abord, à travers le soutien à l'Éthiopie, qui est un État noir et indépendant, et l'un des plus vieux royaumes chrétiens. Ce royaume suscitait l'admiration des peuples noirs, notamment à la suite en 1896 de la victoire du roi Ménélique II sur les Italiens qui tentaient certes tardivement par rapport aux autres puissances coloniales, de se constituer un empire en Afrique. Cette fierté de l'Éthiopie sera d'ailleurs renforcée par la résistance d'Haïlé Sélassié à l'invasion italienne encore, entre 1935 et 1941. Une invasion qui suscitera un immense mouvement de soutien de la communauté africaine et même de la diaspora. À partir de la fin des années 20, la revendication de l'indépendance fait irruption dans les congrès panafricains. Il n'est plus question pour les Africains d'être simplement associés à la gestion des affaires qui les concernent, mais bel et bien de s'émanciper de toute tutelle. Et à partir des années 30, la crainte d'une forme de balkanisation de l'Afrique se précise. Et l'idée panafricaine d'un État africain fédéral et indépendant apparaît alors comme une solution potentielle pour éviter cette balkanisation. Le problème, c'est que dans la réalité des faits, la plupart des leaders nationalistes, tout en parlant de la nécessaire unité africaine, mènent leur lutte d'indépendance dans le cadre géographique et les frontières créées par la colonisation. Le panafricanisme demeure alors un vœu pieux, un rêve, une utopie. Mais il ne deviendra jamais une réalité politique.
Alors, l'organisation de l'unité africaine, fondée en 1963, il me semble, est-ce qu'elle a soutenu clairement un projet de type panafricain ?
Alors, permets-moi tout d'abord un propos liminaire. À partir des années 60 et l'accession peu à peu des États africains à l'indépendance, le panafricanisme, tout en étant réaffirmé comme idéal, est affaibli par la guerre froide, qui va voir s'opposer au sein même du mouvement panafricain les États socialistes et les États libéraux. Mais aussi, c'est un mouvement qui est une pensée qui est affaiblie par les différents territoriaux qui vont être liés aux frontières héritées de la colonisation. Les indépendances étant acquises dans un cadre étatique, il va se révéler par la suite quasi impossible de dépasser ce cadre étatique. Il y aura de nombreuses tentatives de fédération, mais la plupart se soldent par des échecs. D'ailleurs, la consécration par la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine de 1963 de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation sera le dernier clou dans le cercueil du panafricanisme. Mais à vrai dire, en fait, dès la fondation de l'organisation, il y a deux visions qui s'opposent. L'une, qu'on définit comme celle du groupe de Casablanca, est radicale et souhaite liquider l'héritage colonial et aller vers l'unification. Et l'autre, celle qu'on nomme le groupe de Monrovia, s'accommode très bien de cet héritage, et particulièrement de son tracé des frontières, et envisage même la mise en place d'une coopération avec les anciennes puissances coloniales. Et la création de l'Organisation de l'Unité Africaine en 1963 peut être, à ce titre, considérée par sa consécration immédiate de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, comme une victoire des modérés, et donc comme une défaite du grand projet panafricain. Si dans le préambule de la charte, on peut lire que l'organisation souhaite, je cite, « répondre aux aspirations des populations africaines vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrée au sein d'une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales », dès l'article 2 de cette même charte, est fixé l'objectif de, je cite, « renforcer l'unité et la solidarité des États africains ». Exit donc la référence au peuple africain dans son unité. Il n'est plus ici question que de gérer les relations entre les États installés dans les frontières héritées de la colonisation. Kwame Nkrumah, qui est un panafricaniste ghanéen, avait pourtant prévenu, je cite, « Le retard à la réalisation véritable de l'unité africaine approfondit les différences et jette le continent dans le filet des néocolonialismes. Et il fera perdre à jamais la course solennelle vers la rédemption totale de l'Afrique. » Fin de la citation. Alors effectivement, l'Organisation de l'Unité Africaine s'est avérée totalement impuissante à réduire les conflits en Afrique, les ingérences étrangères, et à enclencher le développement. Donc quelque part, Kwame Nkrumah était visionnaire sur ce point-là.
Alors que penser justement de l'abandon de l'idée d'unité au profit de l'idée d'union dans le nom même de l'organisation à partir de la fin des années 90? On parle maintenant de l'Union africaine, dont il est encore question actuellement.
C'est ça. C'est à l'initiative de Muammar Kadhafi, qui a oscillé entre des tentations panarabes et tentations panafricaines, que l'organisation de l'unité africaine est devenue l'Union africaine à la suite, en 1999, de la déclaration de Sirte, qui est une ville en Libye. En 2002, l'acte constitutif de cette union est adopté. Et là encore, on retrouve l'opposition entre les maximalistes, qui rêvent d'une fédération africaine avec des institutions communes, et les minimalistes, qui pensent plutôt à un cadre de, disons, de coopération étatique à l'échelle continentale. Toujours est-il qu'une courte étude sémantique suffit à comprendre que le projet panafricain demeure toujours, dans le cadre de l'Union africaine, une simple utopie. En effet, unité renvoie à ce qui est un. L'unité de l'Afrique induisait l'unité de son peuple. La signification de l'union est un poil plus complexe. L'union, ça peut être un lien, une jonction unissant des choses séparées par leur nature. Ça peut aussi être une entente volontaire en vue de réaliser un but. Donc il est indéniable que l'utilisation du terme « union » en lieu de place d'unité est un marqueur fort. Il induit plus la coopération entre les États, un peu à l'image de ce qu'est l'Union européenne, disons, que l'homogénéité du peuple. Petite précision, comme ce projet de transformation du nom de l'organisation, passant de l'unité à l'union, était porté par Muammar Kadhafi, l'honnêteté nous oblige à dire qu'en langue arabe, unité et union sont parfaitement synonymes. Le terme « l'ouhda » pouvant être utilisé pour traduire aussi bien union que unité. La sémantique, du coup, ne sera pas significative en arabe sur ce point-là. Toujours est-il que l'Union africaine s'est montrée tout aussi incapable que l'organisation de l'unité africaine de faire face aux problèmes du continent, tout aussi impuissante à trouver des solutions communes aux problèmes migratoires, au terrorisme, à la guerre, aux ingérences étrangères, aux conflits aussi bien internes qu'externes. Il y a même de nouveaux clivages qui apparaissent. Certains États africains contestent la participation au Congrès panafricain des pays arabo-africains qui seraient coupables, à leurs yeux, d'avoir aussi pratiqué l'esclavage et à qui on va réclamer des réparations. Une petite avancée tout de même, à partir des années 2000, l'Union africaine intègre les diasporas africaines dans son paradigme, donnant ainsi raison à l'historien Elikia Mbokolo lorsqu'il dit, je cite, « On ne saurait sans courir le risque de briser l'élan panafricain, séparer l'Afrique de ses diasporas. Sans l'Afrique, les diasporas africaines n'ont pas d'identité. Sans les diasporas, l'Afrique perdrait de vue aussi bien l'ampleur de sa contribution passée et actuelle à notre monde que l'étendue mondiale de ses responsabilités. » Fin de la citation.
Alors j'ai deux questions, une question vraiment de détail et une question un peu plus générale. Quelle langue on parle au sein de l'Union africaine ? Une question très technique que je me pose. Parce qu'on parle d'unité, d'union, et il y a la question de la langue en fait qui unifierait. Qu'est-ce qu'on parle, ce que tu saurais ?
Ça dépend en fait. L'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, donc chacun va parler dans son. Comme dans les grandes conventions internationales aujourd'hui.
Donc avec des traducteurs qui s'occupent d'interpréter en direct. D'accord.
Ouais.
Ok. Très bien. Alors, tu parlais de diaspora à l'instant, qui doit être inscrite en principe maintenant dans l'Union africaine ou dans la démarche de l'Union africaine. Et c'est donc de cette diaspora qu'est issu Kémi Séba, l'homme que Gérald Darmanin veut déchoir de sa nationalité française pour ses prises de position, notamment sur la présence française en Afrique.
Oui, alors, petit disclaimer pour commencer. On ne va pas s'attarder outre mesure sur l'aspect judiciaire et les antécédents du bonhomme. Après tout, on n'est pas une émission police-justice, donc on n'a pas à se positionner par rapport à ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement sa doctrine politique, surtout en sa qualité de tête de gondole médiatique du panafricanisme francophone. Et il a une actualité par rapport à ça. Il a récemment publié un ouvrage intitulé « Philosophie de la panafricanité fondamentale ». Alors, je dois concéder que je ne l'ai pas lu. mais j'ai entendu l'auteur en parler. Et en l'écoutant parler, j'ai relevé plusieurs points intéressants, tu vas voir. Pour Kémi Séba, le panafricanisme, c'est, je cite, « la théologie de la libération des peuples négro-africains ». Ce serait une philosophie de la justice propre aux populations négro-africaines, une philosophie donc de combat contre l'impérialisme, sans dimension victimaire ni recours à ce qu'il nomme l'antiracisme BA. Et petite parenthèse, dans un précédent épisode, on a présenté la théologie de la libération, et je vous invite donc à vous référer à ce podcast si le sujet vous intéresse, et le sujet est très intéressant. Alors revenons-en au discours de Kémi Séba. Première remarque. Kémi Séba fait uniquement référence aux populations négro-africaines. De fait, contrairement à la vision de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine, les populations arabo-berbères sont exclues du paradigme panafricain. Première remarque. Deuxième remarque, pour Kémi Séba, exactement comme la théologie de la libération, le panafricanisme a deux dimensions. L'une est spirituelle et métaphysique, et l'autre sociale et politique. Concernant la dimension spirituelle et métaphysique, notons qu'il ne fait pas de distinguo entre les adeptes des religions abrahamiques et ceux qui suivent les religions locales. Il évoque plus une forme de spiritualité africaine transversale qu'il ne met en avant une religion particulière. Du point de vue social et politique, Kémi Séba avoue que depuis son installation en Afrique, je crois qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il a quelque peu délaissé l'approche purement identitaire en faveur d'une réflexion sur les rapports de classe. En se penchant sur la question de la prédation économique, il a pu constater qu'en Afrique, le prédateur comme la proie sont noirs. Et c'est la raison pour laquelle il avoue s'être détourné de l'essentialisation pour porter ses coups contre, je cite, « l'oligarchie néolibérale nocive à tous les peuples de l'humanité ». La troisième remarque concerne le panafricanisme dans son acception géostratégique. Le fait que Kémi Séba reconnaisse qu'il existe des solidarités et des convergences entre les peuples, y compris entre les peuples européens et africains, notamment dans la lutte contre la prédation économique néolibérale, ne l'empêche pas d'être radicalement anti-occidental. Un Occident qu'il juge barbare et violent, et dont il connaît principalement, Afrique francophone oblige, le pendant français. Il fustige donc le recours au franc CFA et la présence de bases françaises militaires sur le continent. Et les saillies contre les tentations hégémoniques occidentales s'accompagnent d'une réelle aspiration à un monde multipolaire. La multipolarité, c'est justement sous ce prisme que Kémi Séba analyse le conflit russo-ukrainien. Pour lui, une guerre entre l'Occident souhaitant défendre son hégémonie et la Russie qui souhaite protéger sa zone d'influence naturelle et continuer à peser dans le concert des nations. Et une petite chose intéressante, c'est que dans l'affrontement entre l'Occident et le monde multipolaire, dans lequel il intègre l'Afrique, ou en tout cas, il aimerait bien que l'Afrique s'intègre, il perçoit une dimension métaphysique. Pour lui, il s'agit d'un... cet affrontement-là, entre le monde multipolaire et l'Occident, c'est une guerre entre le modernisme et le monde traditionnel. Et tiens, elle est pour toi, celle-là. Kémi Séba revendique sans souci la lecture du travail de René Guénon. René Guénon, dont tu nous as présenté le travail dans un précédent podcast.
La crise du monde moderne en particulier.
Voilà. Quatrième et dernière remarque, sur le découpage territorial de l'Afrique issue de la colonisation, quand Kémi Séba parle de souveraineté africaine, il n'inscrit pas celle-ci dans les frontières fixées à la conférence de Berlin en 1885, donc les frontières héritées de la colonisation. Pour lui, la souveraineté doit être redéfinie. Il faut, à son sens, en revenir aux réalités ethniques et culturelles des groupes de population. Il veut se baser sur la réalité historique pour refonder cette souveraineté. Il fait notamment référence au Royaume Congo ou à l'Empire du Mali. Tous ces espaces ont, selon lui, des racines communes. Il faut donc additionner ces différentes mosaïques pour rentrer dans le cadre d'un État fédéral, un peu à l'image des États-Unis d'Amérique, une adjonction d'États fédéraux regroupant toutes les populations négro-africaines. Voilà finalement le projet panafricain contemporain des États-Unis d'Afrique noire. Voilà pour moi, cher Pierre.
Ok, bah c'est extrêmement intéressant, j'ai appris plein de choses. Parce que je trouve en particulier étonnant chez Kémi Séba et dans la doctrine panafricaine chez certains de ses auteurs, c'est qu'on retrouve des catégories assez françaises. On pourrait utiliser deux termes pour définir ce projet. Il y a un certain ethno-différentialisme, c'est-à-dire regrouper les humains sur la base de l'ethnie ou de ce qu'on appellerait la race, entre guillemets. Donc une forme de racialisme. Et de l'autre côté, une forme de souverainisme. Alors souverainisme qui ne serait pas dans les limites de la nation, au sens de l'état-nation à l'européenne, mais une souveraineté du peuple noir en général. Je trouve ça assez étonnant. Et ça rappelle certains mouvements politiques qui existent en France. On peut penser à la Nouvelle Droite en France, regroupée autour du GRES, donc le Groupement d'études et de recherches sur la civilisation européenne. J'ai l'impression que c'est presque le pendant africain d'auteurs comme Alain de Benoist, etc.
C'est très juste, et d'ailleurs c'est ce qu'on a longtemps reproché à Kémi Séba, c'était sa proximité justement avec ces milieux-là, avec les milieux identitaires, c'est une des critiques quand à l'époque où il avait monté, je crois que c'était la Tribuca, ou quelque chose comme ça, à l'époque, c'est ce qu'on lui avait reproché justement, c'était d'être un racialiste, un suprémaciste noir, on disait, et justement on lui reprochait sa proximité, parce que finalement il avait une vision du monde qui était, comme tu dis, assez proche de celle de la Nouvelle Droite.
Oui, et une vision moins caricaturale qu'on le dit, même si on n'est pas obligé d'y adhérer.
Tout à fait.
Une vision qui ne considère pas qu'il y a une hiérarchie, en réalité, des ethnies, mais qui considère juste que chaque ethnie a sa particularité, doit s'épanouir dans ce qu'il voit comme son... Alors, espace vital, c'est vraiment une mauvaise expression, mais dans son milieu naturel, c'est pareil. Mais dans son endroit approprié, on pourrait dire ça comme ça, sans forcément entrer dans une relation de domination, avoir à entrer dans une relation de domination avec les autres groupes humains, quoi.
Ouais, c'est comme ça qu'ils se positionnent en général.
Ouais, c'est une position qui est très 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 décalée par rapport aux positions politiques dominantes, mais c'est souvent en regardant les positions qui nous apparaissent comme extrêmes ou un peu exotiques, qu'on peut mieux comprendre nos catégories à nous. C'est pour ça que je trouve que c'est un exposé fort, fort intéressant.
Tout à fait, tout à fait. J'ai trouvé en tout cas le sujet était très intéressant à traiter.
Voilà. Donc, messieurs, dames, voilà pour le panafricanisme. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À bientôt.